En quittant le Flatiron, nous avions marché vers le sud, sur les trottoirs ensoleillés de Broadway et de University Place, jusqu'à arriver à Greenwich Village. Manhattan débordait de toutes parts. La convention républicaine avait drainé un monde fou. Des journalistes, des représentants, des militants, des supporters. Ce n'était pas le cas ici, mais autour du Madison Square Garden, plusieurs rues avaient été fermées à la circulation, ou strictement réservées aux autobus chargés de transporter les participants à la convention de leurs hôtels jusqu'au lieu de l'événement. Pourtant, traditionnellement, New York était tout sauf un bastion républicain. Je me trouvais à Manhattan à l'automne 2004 pour les repérages d'un roman. Je me souvenais de l'atmosphère détestable qui y régnait alors parce que les amis de George W. Bush avaient choisi la ville comme théâtre de leur convention, espérant ainsi raviver l'émotion des attentats terroristes du 11 septembre. À l'époque, New York haïssait les républicains. Emmenés notamment par Michael Moore, des centaines de milliers de manifestants anti-Bush avaient envahi la ville pour protester contre les mensonges et la guerre illégitime menée en Irak par leur président. Manhattan semblait en état de siège. Les manifestations avaient dégénéré en d'innombrables affrontements donnant lieu à des centaines d'arrestations. Les images des républicains, cloîtrés dans un Madison Square Garden, barricadés par des blocs de ciment et protégés par des milliers de policiers, avaient fait le tour du monde. Ça n'avait pas empêché Bush d'être réélu, mais le Old Party n'en était pas ressorti grandi. 12 ans plus tard, de l'eau avait coulé sous les ponts. En ce samedi après-midi, malgré le déploiement massif des forces de l'ordre, l'ambiance était étonnamment bon enfant. Il faut dire que pour une fois, les républicains avaient choisi un candidat jeune et modéré, qu'on aurait cru tout droit sorti d'une série télé de Shonda Rhimes. Tad Copeland, le gouverneur de Pennsylvanie, était dans les sondages au coude à coude avec Hillary Clinton. Pro-avortement, écologiste, favorable au contrôle des armes et défenseur des droits des homosexuels, Copeland désorientait, voire horripilait une bonne partie de son propre camp. Mais au terme d'un affrontement sans merci lors des primaires, il avait créé la surprise en battant sur le fil Donald Trump et Ted Cruz, les extrémistes conservateurs du Parti républicain. À présent, la dynamique de la campagne était du côté du Barack Obama blanc, surnom que lui avait attribué la presse. De même que le président en exercice, Copeland avait commencé sa carrière comme travailleur social, avant d'être professeur de droit constitutionnel à l'Université de Philadelphie. Provenant d'un milieu populaire et portant beau sa petite cinquantaine, Copeland ringardisait et siphonnait une partie des voix de la candidate démocrate, plus âgée et perçue comme étant issue d'une dynastie politique. Je regardais ma montre. Nous étions très en avance à notre prochain rendez-vous, et depuis un moment, je constatais que Karadec traînait la jambe. « Une assiette d'huîtres, ça te dit ?»«
C'est pas de refus », répondit Marc. « Je commençais à fatiguer un peu. » Le contre-coup du décalage horaire.
Et sans doute aussi le choc émotionnel d'avoir descendu la côte. Il me regarda sans sourciller.
Compte pas sur moi pour pleurer ce type.
Je levai la tête pour me repérer. Suis-moi. Je connaissais une adresse dans le coin. Un comptoir à coquillages à l'angle de Cornelia Street et de Bleecker, dans lequel m'avait emmené plusieurs fois mon ami Arthur Costello, un écrivain new-yorkais publié en France par le même éditeur que moi. Karadec m'emboîta le pas et se laissa conduire jusqu'à une petite rue étroite aux immeubles de briques ocre, bordés d'arbres colorés.
« Hello guys, join us anywhere at the bar. »
Chaque fois que je poussais la porte de l'Oyster Bar, j'étais soulagé de ne pas y croiser de touristes.
« C'est sympa ici, »
jugea Marc en s'asseyant sur l'un des tabourets disposés autour du comptoir. Je savais que ça te plairait. À l'Oyster Bar, le temps s'était figé quelque part au début des années 1960. On était dans un restaurant d'un port de pêche de Nouvelle-Angleterre, dans lequel la serveuse vous appelait « Darling » en vous donnant vos crackers pour l'apéritif, où le poste de radio diffusait des chansons de Richie Valens, de Johnny Mathis et de Chubby Checker, où le patron portait son crayon à papier coincé derrière l'oreille, où les fraises avaient le goût de fraises, où on ignorait jusqu'à l'existence d'Internet et de Kim Kardashian. Nous commandâmes un plateau de spécial et une bouteille de Sancerre blanc. L'heure était grave, mais cela ne nous empêcha pas de trinquer. Et tandis que nous levions nos verres, un sentiment puissant de gratitude m'envahit. Depuis que je le connaissais, Karadec avait toujours été là pour moi et pour mon fils. Et aujourd'hui encore, il n'avait pas hésité à prendre l'avion et à me suivre jusqu'à New York. À cause de moi, il avait failli se faire dézinguer et s'était retrouvé dans une position qui l'avait forcé à abattre un homme. Autant avoir la lucidité de le reconnaître, À part Claire et lui, je n'avais personne dans la vie. Je n'avais jamais rien eu en commun avec ma sœur. Ma mère, qui habitait désormais en Espagne, avait dû venir voir son petit-fils 2 fois depuis sa naissance. Quant à mon père, il vivait toujours dans le sud de la France, mais il avait refait sa vie une nouvelle fois avec une fille de 25 ans. Officiellement, je n'étais fâché avec personne, mais nos rapports étaient distants, voire inexistants. Triste famille. Merci d'être là, Marc. Je suis vraiment désolé de t'avoir entraîné dans cette galère. Nos regards se trouvèrent. Clin d'œil, complicité, pudeur.
T'en fais pas. On va la tirer d'affaire, ta Claire Carlyle.
Tu dis ça pour me réconforter?
Non, je le pense. Nos investigations progressent. On fait une belle équipe.
Vraiment?
Ouais. T'es pas trop mauvais comme enquêteur.
Notre visite chez Alan Bridges avait remis du carburant dans nos moteurs. Nous avions glané de nouveaux éléments, mais j'avais toujours l'impression de me trouver devant une gigantesque pelote de laine qu'il fallait démêler. Marc chaussa ses lunettes et sortit de sa poche un plan qu'il avait dû récupérer dans le hall de l'hôtel.
Bon, montre-moi où se sont produits les faits le jour de la mort de Joyce.
Sur mes indications, il marqua d'une croix l'habitation de Joyce à Harlem, puis celle de Florence Gallo dans le Lower East Side, 15 kilomètres plus bas.
Ton scénario ?
Me demanda-t-il en se resservant du vin. Je réfléchis à voix haute. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. Voilà ce que Florence a lancé à Alan, juste après lui avoir envoyé le mail qu'il prétend ne jamais avoir reçu.
Elle n'a pas dit « tu ne vas jamais le croire » ou « tu ne vas pas en croire tes yeux ». Elle lui a dit « tes oreilles ». Donc pour moi, c'est évident. Elle lui a envoyé un fichier sonore. On est d'accord, mais quel fichier ?
Une conversation qu'elle venait d'enregistrer avec son téléphone. Karadec eut une moue dubitative. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais je ne me laissais pas contaminer par son scepticisme. Tu veux un scénario ? Alors en voici un. Pour commencer, Florence n'a pas enregistré Joyce à son insu.
Qu'est-ce qui te permet de l'affirmer ?
D'abord, c'est pas son genre. Puis, j'ai toujours pensé que c'est Joyce qui, la première, est allée trouver Florence pour lui raconter son histoire.
Donc, tu crois qu'elles étaient de mèche pour enregistrer une troisième personne ?
Oui. Quelqu'un à qui Joyce avait donné rendez-vous dans sa maison. Voilà le plan. Joyce appâte sa proie pour la faire parler, tandis qu'elle déclenche un appel sur son téléphone à carte prépayée. À l'autre bout du fil, Florence écoute et enregistre la conversation, quand soudain,
la conversation dégénère en dispute.
Enchaîna Marc en se prenant au jeu.
Peut-être que l'autre personne s'aperçoit qu'on l'enregistre. En tout cas, elle se montre violente et commence à frapper Joyce qui se met à hurler.
Là, Florence panique. Elle descend dans la cabine téléphonique en bas de chez elle pour signaler l'agression. Exactement ce que mentionnent les documents que m'avait remis Gladys. Alors qu'on nous apportait notre plateau d'huîtres, je sortis les photocopies de ma serviette et les tendis à Marc. Il eut de nouveau besoin de ses lunettes pour parcourir la retranscription de l'appel au 911. Date. Samedi 25 juin 2005. Heure, 3h de l'après-midi.
Je vous appelle pour vous signaler une agression violente au 6 Bilberry Street, dans la maison de Joyce Carlyle. Dépêchez-vous, on est en train de la tuer.
Jusqu'ici, tout s'emboîtait à merveille. Sauf que les flics s'étaient effectivement rendus sur place 6 minutes plus tard et qu'ils n'avaient rien remarqué de suspect. Je jetai un coup d'œil par-dessus l'épaule de Marc pour entourer au stylo le passage qui indiquait que les 2 officiers avaient eu un accès visuel et dégagé à tout l'intérieur de la maison, y compris la salle de bain, et qu'ils n'avaient relevé aucune trace d'effraction, de bagarre, ni de sang.
« C'est pourtant là qu'a été découvert le corps de Joyce »,
murmura Karadec.
« Oui, le lendemain. Sa sœur Angela l'a trouvé au pied du lavabo. Elle m'a affirmé elle-même qu'il y avait du sang partout dans la pièce. »
« C'est troublant »,
admit Marc.
« Et ça fiche en l'air notre bel échafaudage. »
Je soupirai et serrai les dents. Puis, de rage, j'abattis ma main sur le comptoir.